418-971-1021, quand on fait jouer du Metallica sur les ondes de radio à Québec, les gens l'apprécient beaucoup, puis on peut en entendre aussi la fin de semaine, soit dit en passant.
Quand tu m'as texté en fin de semaine.
Quand
hein?
Tom est là, dedans. Quand Dan the Man est là, j'adore quand vous mettez du Metallica. Ça fait toujours du bien quand on est dans la voiture.
Oh yeah, petit problème de circulation à vous préciser, là. Henri IV, direction sud, à la hauteur du chemin des Quatre Bourgeois. La voie de droite qui est bloquée en raison d'une panne, mais ça n'a pas un gros effet là, sur la circulation en ce moment. Puis ça va super bien ce midi à Québec. S'il y a quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021.
Merci beaucoup, Martin Bourget, qui est président du groupe Aventure Chasse-Pêche, qui est au bout du fil. Salut, Martin.
Salut, gang. Comment ça va, vous autres?
Ça va très bien. Est-ce que tu es à l'île d'Anticosti présentement, cher ami?
Pas là. On prend un avion dimanche matin en direction de l'île d'Anticosti. C'est un petit rendez-vous annuel, je te dirais, avec cette île-là qui est... écoute, c'est une expérience aller là, ouais. Pour la chasse ou la pêche. Donc, dimanche matin, dans l'avion pour Anticosti.
Quelle vie de misère, quand même.
Est-ce que tu es allé quelques fois, Martin, ou ça va être ta première fois que tu es allé quelques fois, j'imagine?
La première fois que je suis allé sur l'île d'Anticosti, si je me souviens, j'avais 16 ou 17 ans. Okay. J'y vais à tous les années depuis ce temps-là, à quelques reprises, parce qu'on y allait par choix, en voyage familial, en dehors des caméras, avec ma marraine, mon oncle, sa mère. On y allait avec toute la gang à tous les ans. Puis là, on y va en plus en tournage. Donc, les voyages familiaux ont arrêté. Là, les mononcles prennent de l'âge. Hein. Mais oui, ça fait beaucoup, beaucoup de fois que je vais sur l'île d'Anticosti.
L'achalandage des gens sur l'île d'Anticosti, est-ce que c'est un achalandage qui est contrôlé ou bon, on laisse tout le monde arriver puis partir sans aucun problème?
C'est contrôlé et principalement par le fait que la liaison entre l'île d'Anticosti et le continent se fait soit par bateau ou encore par la voie des airs. De deux, il faut comprendre que Portmeunier, qui est la ville principale là-bas, mais maintenant, il y a une auberge. Après l'incendie là, de la fameuse auberge du temps, il y a une auberge. Alors, il y a une capacité quand même assez limite là, dans l'auberge d'hébergement pour la villégiature, puis dans les chalets de la CEPAC. Puis, anciennement, il y avait deux pourvoiries. Maintenant, il y en a une seulement, donc la pourvoirie du lac Geneviève, qui est un organisme sans but lucratif. Tu avais Safari Anticosti après, avec les chalets de la CEPAC qui sont répartis sur l'île. Tu sais, souvent, les gens pensent que le chalet est à côté. Là. Quand tu arrives à Portmeunier, là, certains chalets, ça prend jusqu'à 3-4 heures pour se rendre sur le chalet. C'est une très grande île. Généralement, en temps de villégiature, je te dirais que la CEPAC, entre autres, affiche pas mal complet. Faut s'y prendre d'avance là, pour aller se promener dans le canyon Chicotte, dans le canyon de la chute Voreal, la grotte Patate. C'est géologiquement parlant et je te dirais au niveau des paysages, puis les navires qui sont échoués sur le tour de l'île parce que c'est une grosse île en plein milieu de nulle part. C'est une île qui est très aimée des marcheurs, des villégiateurs. C'est de toute beauté, mais c'est pas mal complet généralement. Faut se renseigner sur le site de la CEPAC pour avoir de la place.
Les cheptels sont-tu contrôlés? Parce que je me souviens d'avoir vu des images. Moi, j'ai jamais eu la chance d'aller sur l'île d'Anticosti puis un jour j'irai. Mais est-ce que les cheptels de chevreuil sont contrôlés? Parce qu'il y a des gens qui allaient là à la chasse et à la pêche. Ils étaient en ville, entre guillemets, là où il y avait un peu plus d'activité. Il y avait des chevreuils au travers. Je me dis, t'es sur ta galerie puis tu tires puis c'est fini. Là.
On comparait ça souvent à la situation à Longueuil aussi. Ouais. La façon dont on. Pour vrai! Comment est-ce qu'on gérait l'île d'Anticosti? On ramenait la situation à Longueuil.
Ouais.
Longueuil, là, il va falloir voter quelque chose dans le dictionnaire. C'est comme Voldemort, ça. C'est comme...
Celui dont on ne doit pas prononcer le nom.
Exactement. Tu as mis le doigt dessus. T'as raison. Localement, là, à Portmeunier même, les chevreuils sont très présents puis sur le terrain des gens. Il faut comprendre que ce secteur-là est un secteur, une aire protégée. Donc, il n'y a pas de chasse dans ce coin-là. Alors, les chevreuils cohabitent littéralement. Il n'y a pas de chien sur l'île d'Anticosti. Hein. Il n'y a pas de chien qui est autorisé sur l'île d'Anticosti.
Ah non?
Non, du tout, du tout. Donc, les chevreuils ne sont pas effrayés par quoi que ce soit. Ils sont l'espèce dominante. Il n'y a pas de prédateurs. Il n'y a pas de loups, de coyotes. Il n'y a plus d'ours sur l'île d'Anticosti. Alors, les chevreuils prennent la place comme ils le veulent. C'est sûr que tu vas voir beaucoup de chevreuils au village parce que les gens les nourrissent. C'est presque impossible de garder une plate-bande ou encore un jardin, à moins d'avoir de la barbelée de 12 pieds là, sur l'île d'Anticosti, là, parce que les chevreuils rentrent là-dedans. Par contre, quand tu rentres dans les territoires, la réalité, elle est un petit peu différente. Il y a une abondance. Définitivement, il y a une abondance qui est très différente du territoire. Puis là, j'entends penser certains auditeurs, il y a aussi un cycle dans la population de chevreuils sur l'île d'Anticosti, comme il y en a partout ailleurs. On a eu des années un peu plus faibles dans les dernières années. Cette année est une année de gros, gros bocs sur l'île d'Anticosti, d'abondance. On se souviendra dans le passé, quand on passait de Port-Meunier puis on se dirigeait vers nos chalets respectifs, on pouvait voir des fois jusqu'à 100 chevreuils sur le chemin en camion quand on se rendait. La réalité est peut-être un peu différente aujourd'hui, mais il y a quand même encore une très bonne abondance. Il y a, si je ne me trompe pas, c'est une moyenne de 1,5 ou 1,3 chevreuils par chasseur sur l'île. Mais il y a tellement d'abondance que si on regarde biologiquement parlant les études qui ont été faites dans les causes de mort de chevreuils, de décès de chevreuils sur l'île d'Anticosti, même s'il y a beaucoup, beaucoup de chasseurs, ils décèdent plus de chevreuils sur l'île d'Anticosti par noyade que par la chasse, par la pression de la chasse qui est présente sur place. Alors, ça va arriver souvent, dans le temps de la migration, le chevreuil va migrer du centre de l'île vers les berges pour aller profiter du varech qui est sur le bord de la mer. Puis quand l'eau glace, le chevreuil embarque sur l'eau parce que lui, il continue pour trouver la berge. Et puis, il va tomber dans l'eau. Il va se noyer littéralement, c'est froid. Alors, et puis ça, là, il y a des années où est-ce qu'on est, on est rentré au printemps à l'île en villégiature et à la chasse un petit peu plus tard à l'automne. Et on pouvait retrouver des ossements de chevreuils sur les berges qui avaient été repoussés par la mer tellement il y avait de chevreuils qui mouraient de façon noyade. Alors, les morts par noyade sont plus importantes dans le calcul de décès de chevreuils sur l'île d'Anticosti que les décès par arme à feu. C'est de te donner une idée comment est-ce que on est très loin d'un point critique, si tu veux, dans la récolte de chevreuils versus la capacité qu'a le cheptel de chevreuil de l'île d'Anticosti à se reproduire et à produire des nouveaux fans tous les ans.
Est-ce qu'on introduit, là, je pose des questions niaiseuses, là, mais est-ce qu'on introduit du sang neuf sur l'île une fois de temps en temps? Est-ce qu'on amène des chevreuils d'ailleurs?
Non. Et je te dirais, c'est particulièrement dû au fait qu'il se reproduit tellement qu'on n'a pas de besoin. Mm. Henri Meunier, un riche chocolatier français, a acheté l'île d'Anticosti au début des années 1900 et a introduit sur l'île des chevreuils, des cerfs rouges, des orignaux, des ours, des renards, une couple d'espèces comme ça. On survécu là-dedans quelques orignaux qu'on va voir sur l'île, beaucoup, beaucoup de chevreuils, beaucoup, beaucoup de renards qui sont littéralement les vidangeurs de l'île. Quand on va faire l'éviscération d'un chevreuil, c'est eux qui vont venir nettoyer la place complètement. Maintenant, il y a quelques années, un étudiant de l'Université Laval dans la chaire de recherche Anticosti a, par protocole de recherche assez élaboré, établi le fait que le chevreuil sur l'île d'Anticosti a tellement évolué en tant qu'espèce pour s'adapter à sa réalité que c'est maintenant une espèce à part entière. Donc, génétiquement, là, on prendrait la génétique des échantillons de 18 chevreuils. En décompte chromosomique, on serait capable d'identifier lequel de ces chevreuils-là provient de l'île d'Anticosti et de façon très claire.
Ah ouais.
Assez qu'on travaille à aller chercher un nom ou une variété différente pour le chevreuil de l'île d'Anticosti, comme on l'a pour l'orignal en Alaska, par exemple, qui porte le nom de Gigas, parce qu'il est très, très gros, donc une variété.
Fait que l'ADN se mélange en masse, là. Il n'y a pas de problématique à ce niveau-là. Ils ne s'appellent pas tous des Tremblés, là.
Non, non, non. Puis tu sais, il faut ramener au fait, là. Les gens pensent que c'est un petit caillou tout petit, là. Il n'y a pas de congénitalité, mais du moins marquée assez pour créer de tares génétiques.
Ouais.
Si tu pars de Port-Meunier puis tu t'en vas dans des secteurs éloignés comme Renard, par exemple, ou Cormoran, ben, tu as 4h30 de véhicule à faire avant de débarquer puis d'embarquer sur un 4 roues puis refaire 1h30, 2h. C'est grand, là. C'est grand. Les populations migrent. Le fait que les populations migrent et ne reviennent pas toujours à la même place lorsqu'ils retournent vers le centre de l'île, il y a quand même un mélange qui se fait. Tu as quand même une population assez grande pour faire des bons mix. Là.
Qu'est-ce que ça va avoir comme impact que l'île d'Anticosti devienne patrimoine de l'UNESCO?
La protection, principalement la protection des milieux. Parce que si tu te souviens, dans le temps de M. Couillard avait promis protéger l'île d'Anticosti avec l'exploitation, entre autres, l'exploration minière au niveau des gaz. Il y a aussi l'exploitation forestière qui se fait. Alors là, la reconnaissance du patrimoine mondial d'UNESCO cible particulièrement les fossiles. L'île a 440 millions d'années. C'est un fond marin qui a émergé. Il y a au-dessus de 1440 espèces animalières, aquatiques et terrestres qui sont identifiables dans les fossiles de l'île. Alors, c'est le point de vue géologique de l'île qui vient de la placer comme patrimoine mondial au niveau de l'UNESCO. Et ça vient protéger particulièrement les berges de l'île et les grandes rivières, donc la rivière Jupiter, entre autres, et la rivière Voreal. Tu sais, Port-Meunier n'est pas ciblé dans la protection, mais c'est qu'on vient limiter l'exploitation à l'entour des sites d'intérêt. L'autre effet que ça va avoir, c'est un achalandage, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de récréotourisme qui est créé par ce genre de nomination-là. On commence à parler de patrimoine mondial au niveau de l'UNESCO. On parle même présentement dans la presse que l'école de Lille, qui, je crois, l'année passée avait 6 ou 8 élèves, commence à se préparer à la venue de nouvelles familles. Littéralement, la mairesse de Lille est en train de préparer les infrastructures à un achalandage beaucoup plus important en récréotourisme, puis évidemment en tourisme de chasse et de pêche aussi sur place. Bien, c'est sa place Anticosti qui présentement, per capita, le revenu de taxation, si on le veut, est nettement insuffisant à faire survivre les services communautaires, dans une position où est-ce qu'on va peut-être renverser la vapeur, puis on va être capable d'autogérer, si on veut, les infrastructures là-bas au niveau municipal. Ce qui est une très bonne nouvelle pour les habitants de l'île.
Aventure chasse-pêche, je vais faire un tour là sur l'île d'Anticosti pour faire quoi? Vous allez filmer la chasse au chevreuil, quoi?
Oui, là, on s'en va à chasse au chevreuil cette fois-ci. On a, dans le passé, là, si vous retrouvez, on a un reportage où est-ce qu'on passe un an sur Anticosti. On fait les saisons d'Anticosti. On fait la villégiature, on fait la pêche et on fait la chasse. Puis on fait vraiment le tour biologiquement de l'île, à expliquer comment la dynamique faunique sur l'île fonctionne. Parce que là, on parle de chasse puis de pêche, mais je reviens sur la villégiature, là. Honnêtement, là, que ce soit des tripeux d'observation d'oiseaux marins ou des petites familles, il y a moyen là, d'arrêter au dépanneur Anticosti, de prendre la carte des échoueries, parce qu'il y a une carte qui identifie les bateaux qui ont échoué sur le tour de l'île, et juste en visite d'épave de bateaux avec les enfants, en faisant des histoires de pirates, et etc., tu as moyen d'avoir un Christy trip, là, un vrai beau trip. Rechercher des fossiles, attention, on n'a pas le droit de les sortir de l'île, les fossiles, mais rechercher et prendre en photo des fossiles, si tu tripes ces fossiles, là, je veux dire, t'as pas idée. T'es en plein milieu de l'île, à des kilomètres de la berge, puis tu tombes sur des fossiles, là, puis nettement identifiables, des animaux marins complets, là, c'est hallucinant.
Il y a des auditeurs qui m'écrivent, Martin, qui disent ben les orignaux, ça nage, les ours, ça nage. Est-ce qu'il y en a qui seraient portés à se rendre par eux-mêmes à l'île d'Anticosti ou encore le contraire, des orignaux et des ours? Ben, il n'y a plus d'ours, là, mais des orignaux qui seraient portés à aller faire un tour sur les berges avoisinantes. C'est pas Alcatraz, là, c'est assez proche, c'est très, très loin, les prochaines berges.
Même à Alcatraz, il y en a qui ont réussi.
Ouais, mais oui. Moi, je l'ai vu à Alcatraz, là, il y a moyen de le faire quand même à la nage, mais regarde, oui, l'île de d'Anticosti, là, c'est plusieurs jours de nage. Là.
Ouais, c'est ça, là, c'est loin. Là. C'est pas pour rien qu'on prend l'avion, on prend pas le bateau, parce que le bateau, c'est en question de jour là, qu'on traverse. C'est un peu aussi ce qui a toujours rendu l'île d'Anticosti un peu moins accessible, surtout avec la hausse des carburants fossiles dans les dernières années. Là, t'as pas le choix de traverser ton pain et tes pommes de salade en bateau. Puis ton monde en avion, mais non, à nage, il n'y a pas de fonde qui se rend là. Il faudrait en réintroduire, en transporter si on le voudrait, sauf qu'avec les moyens de gestion en place aujourd'hui dans les dossiers fauniques, on n'aurait pas la même facilité que Henri Meunier l'a eu dans le passé de prendre des arches de Noé puis de traverser toutes sortes de patentes pour le bord. Ça ne fonctionnerait pas de même.
Mais il y a Auve-Saint-Pierre qui est proche, il est quand même à plusieurs kilomètres, là.
Oui, quand même. Ça serait très surprenant. Il y avait dans le temps, justement, en provenance du Havre-Saint-Pierre puis de toute cette partie-là de la Côte-Nord, il y avait des poachers, il y avait du braconnage qui se faisait. Alors, les gars traversaient en bateau sur les berges dans ce cas-ci et venaient chasser le chevreuil de manière illégale puis les autres animaux qu'il y avait là, ils les retraversaient par bateau. Maintenant, c'est rendu excessivement contrôlé parce qu'on a peuplé l'île dans ce cas-ci. Toute la rive sud de l'île et la rive nord de l'île sont peuplées de chalets qui, avant, étaient habités strictement dans le temps de la chasse, mais maintenant sont habités par des familles qui font de la randonnée dans les canyons. Les canyons là-bas sont écœurants. Mais tout au long de l'année, fait que la présence humaine continuelle sur l'île fait que ça a diminué énormément cette affluence-là là, dans les dernières décennies. Là.
All right. Il y a une grande dame du merveilleux monde de la chasse et de la pêche qui est décédée?
Elle n'est pas encore décédé. Okay. On a fait les derniers au revoir aujourd'hui. Ça se promène beaucoup sur les médias sociaux. Tout le monde connaisse Jim Shokey et Eva Shokey, qui sont des figures très dominantes dans le milieu de la chasse. Le frère de Eva aussi, Brandon, qui est de plus en plus présent sur les différents médias sociaux. Jim Shokey est reconnu comme le plus grand chasseur au monde, littéralement. Ce sont des gens qui ont fait avancer la cause de la chasse et la cause de la conservation beaucoup. Louise Shokey, la femme de Jim qui a pas juste été la dame derrière l'homme, très présente au niveau philanthropie et etc., se bat depuis quelques années contre un cancer du poumon. Chimiothérapie, immunothérapie, il n'y a rien qui a collé et malheureusement, on doit aujourd'hui lui dire au revoir. Puis ça mérite quelques minutes de pensée parce que c'est une grande dame du milieu qui s'en va. C'est une dame qui, nous on l'a suivi là, dans les dernières semaines, mois, là, à tous les jours, des sourires resplendissants à remercier la vie, à remercier l'amour. Et puis là, on lui dit son dernier... Allez voir sur le Facebook de Eva présentement, là, vous allez voir les derniers au revoir. D'après moi, Jim, ce matin, n'est pas d'humeur à écrire sur Facebook. Ce au revoir, c'est des souffrances qui vont se terminer, mais c'est un au revoir et un repos qui va être très, très bien mérité par Louise Shockey, qui est une grande dame du milieu qu'on perd.
Martin, loisirs, chasse-pêche, on peut vous suivre à quel endroit?
Aventure chasse-pêche,
excuse-moi.
Pas de problème. C'est l'ancienne dénomination de l'émission. Vous nous suivez un peu partout sur les médias sociaux, évidemment, tous les jeudis soirs, 21h sur les ondes de Télémag. Maintenant sur Sportsman Channel, Carbon TV, Zone 300 sur le web, notre magazine à tous les trois mois. Mais ce qui est encore plus important, la plateforme d'Aventure chasse-pêche, c'est plus de 10 000 vidéos de chasse et de pêche gratuits, pas d'abonnement, environ 100 nouveaux vidéos gratuits par mois et une section créateur de contenu. Vous créez du contenu, vous vous filmez dans le bois, vous voulez vous faire connaître dans le domaine de la chasse et de la pêche, on vous diffuse gratuitement.
Ah, c'est très cool que vous ayez fait ça, là.
Oui, bien, il y a des jeunes qui sont bons, mais ils n'ont pas le moyen de se faire connaître, puis ils mériteraient autant que moi de se faire connaître, puis d'éventuellement vivre de leur passion. Puis nous autres, on a le réseau pour les propulser.
Mais ils n'ont pas tout, tu sais, faut le dire, ils n'ont pas tout ton sex appeal.
Hey, non, bon, moi, c'est Kate. Tu sais, c'est Kate, les codes d'écoute de l'émission. Ça fait longtemps que j'ai compris.
Donc, je vais avoir une petite pensée pour vous autres dimanche. Pendant que moi, je vais être à Québec, vous autres, vous décollez pour l'île d'Anticosti. Donc, vous allez avoir une vie de misère comparativement à la mienne. Fait que je vais avoir une pensée pour vous autres.
Je vais voir si on a assez de réseau là-bas pour vous parler jeudi prochain. Sinon, on remettra ça à la semaine d'après, juste avant de partir pour le Nouveau-Brunswick.
Hey, tu nous as vendu les satellites d'Elon Musk la semaine passée.
Ouais,
si ça fonctionne pas, ça va mal aller, là.
En tout cas, si tu vends un 75 livres maximum dans l'avion, fait que tu peux pas traîner ça.
Ah, ça, c'est ton problème. Salut, Martin.
Salut, bye-bye.
L'excellent Martin Bourget, à qui on a le plaisir de jaser chaque semaine.
Tellement le fun d'écouter.
Ouais, tu vas-tu devenir un chasseur-pêcheur?
Je le sais pas, mais s'il continue de même, peut-être.
On va voir Tom devenir trappeur.
Quand tu parles avec des passionnés, tu sais, moi, je suis pas un chasseur, pêcheur une fois de temps en temps, mais quand tu parles avec des passionnés, des fois, tu as le goût d'en savoir plus, même si tu dis, ah, ben, tu vois, moi, je ferais jamais ça. Puis des fois, c'est parce que Martin, des fois, il a de la viande, puis là, il m'en offre, puis là, moi, je lève la main. Fait que je me dis peut-être qu'à un moment donné, je vais me laisser avoir, puis je vais aller en collecteur.
Tu vas aller chercher ta viande.
Ben, j'aurais pas le choix. Là.
Toi qui aimes être pourvoyeur.
Oui, ben oui. Martin, il a plein de techniques de survie, là, fait qu'il pourrait peut-être me montrer à faire tout ça à la main. Là.
Il y a quelqu'un qui nous a écrit, Yannick, pendant l'entrevue, qu'il y avait un début d'incendie à Saint-Isidore, Scott et Saint-Lambert, qui ont été appelés pour ce début d'incendie chez RCM Architectural. Tu connais ça? En tout cas, c'est un incendie qui était situé dans le dépoussiéreur, fumée, flammes visibles et quelques ralentissements là, dans le secteur vu les services d'urgence sur place, mais ça ne semblerait pas majeur.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Clay Scott, Masterpiece au boulevard, on revient.